Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
D'ordinaire, aux pieds sur terre, nous prenons un agra, un micro et nous partons enregistrer les gens chez eux, dans leur cuisine ou sur leur canapé, au travail ou dans les rues. Mais de temps en temps, nous changeons la formule, ça s'appelle les pieds sur scène. L'idée, c'est d'arriver à convaincre plusieurs personnes de monter sur une scène de théâtre, seules face au public, et de raconter une histoire vraie, quelque chose qui leur est arrivé, un souvenir, un moment fort de leur vie. Ce n'est pas vraiment du théâtre, ni complètement de la radio, il n'y a pas de décor, juste un rond de lumière qui éclaire celui qui raconte, une douche, comme ils disent au théâtre. C'est modeste et un peu fragile, mais parfois, c'est beau. Le 21 novembre 2015, les pieds sur scène étaient invités par le Théâtre du Nord à Lille. Les trois histoires que nous avons choisies sont liées au Nord, ce sont des échos de Calais ou de Lille, des histoires qu'il nous semblait juste de partager en public parce qu'elles parlent de moments où la vie dérape, où l'existence nous joue des tours, nous met à l'épreuve, où les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Des histoires que l'on ressasse, que l'on a tues longtemps peut-être, ou racontées mille fois à ses enfants. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre, jusqu'à 14h30, ce sont trois histoires qui nous ont été racontées sur la scène du Théâtre du Nord par Ondine Milot, Pierre Mathiot et Anne-Sophie Lepicard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'avais à peine 3 semaines, mes parents ont entrepris d'aller me faire baptiser dans la cathédrale du Puy-en-Velay. C'était la ville où travaillait mon grand-père, qui était très catholique, et ma mère voulait lui faire plaisir. Mais nous habitions Montbéliard, et mes parents m'ont donc fait faire un voyage de 800 km, en 2 chevaux, avec mon frère. C'était la Toussaint, il faisait un froid glacial, la voiture n'avait pas le chauffage. En rentrant, j'ai attrapé une pneumonie. J'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital, j'ai failli mourir, et ma mère a eu très peur. À partir de cet épisode, elle est devenue maladivement soucieuse de ma santé. Elle m'emmenait sans cesse consulter des docteurs. Pour elle, j'étais, et je suis resté, un rescapé en sursis. Le résultat principal est que j'ai développé, rapidement, et sous une forme pathologique moi aussi, une crainte de tout ce qui touche au monde médical. Je ne supporte pas les blouses blanches, l'odeur de l'hôpital, les tensiomètres, les piqûres, la vue du sang. Et quand je dis que je ne les supporte pas, c'est au sens littéral. Je m'évanouis. Un jour, j'avais 10 ans, je faisais une course à vélo avec mon copain Philippe. Nous roulions comme des fous sur un chemin caillouteux et Philippe a fait une chute terrible. Il s'est méchamment ouvert le crâne. Je l'ai relevé et je l'ai soutenu sur mon épaule jusque chez le docteur Bion pour qu'il se fasse recoudre. Je voulais me montrer solidaire et responsable. Mais à la vue des agrafes qui rafistolaient la plaie, je suis immédiatement tombé dans les pommes. Je me suis éclaté la tête par terre. Aujourd'hui, j'en ai encore les cicatrices. Ce genre d'évanouissement a ponctué mon enfance. Mais je pensais que cela s'arrangerait en grandissant, que j'allais m'endurcir. Je suis parti faire mes études à Paris. Un jour, avec mon premier salaire de doctorant, je me suis payé une magnifique paire de chaussures italiennes. Mais sans les essayer, car j'avais aussi peur des magasins de luxe. Évidemment, elles étaient trop petites, et j'ai attrapé une ampoule. Une petite ampoule banale, mais qui s'est infectée. J'aurais dû aller consulter, mais ma phobie m'en empêchait, et l'ampoule a dégénéré. Résultat, le soir de mes 25 ans, je me suis évanoui en pleine rue à Paris. Je ne sais plus qui m'a ramassé. J'ai passé la nuit de mon anniversaire, seul, aux urgences de l'hôpital Cochin. Il a fallu m'opérer. L'ampoule avait viré à la septicémie. Je n'étais pas très fier. Mais la paternité devait tout changer. En tout cas, c'est ce que je me disais. J'ai surmonté 3 accouchements. Heureusement, ma femme était contre la péridurale. Je n'aurais jamais pu endurer le spectacle de l'aiguille géante. Je pensais avoir franchi un cap décisif et réglé mes problèmes de phobie. Mais notre petit dernier avait des allergies sévères. Un jour, il a fallu lui faire une prise de sang. J'étais père, désormais, et bien décidé à tenir mon rôle. Dans un élan de courage, j'ai proposé d'accompagner mon fils au laboratoire d'analyse médicale. Notre tour est arrivé. J'essayais de détourner l'attention de mon petit garçon, de le rassurer, de le faire rire. Mais quand l'infirmière a sorti sa seringue, j'ai tourné de l'œil et je suis tombé dans les vapes. Ma femme s'inquiétait de ne pas nous voir revenir. Quand elle nous a retrouvés, j'étais blanc comme un linge et c'est mon fils de 3 ans qui me tapotait les joues. Jusqu'ici, tout va bien. Le temps passe, peu de médecins, pas d'hôpital, le moins possible de piqûres, beaucoup de courses à pied. Je deviens directeur de Sciences Po, je fais plein de choses. Mais en 2010, tremblement de terre. Ma femme apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle doit se faire opérer pour enlever la tumeur. Après l'opération, je l'accompagne chez le cancérologue à l'hôpital Jeanne de Flandre. Il doit nous dire si l'opération a réussi. Nous avons peur. Je fais l'andouille dans la salle d'attente pour essayer de faire sourire Emmanuel. Le cancérologue explique que la tumeur était sévère et que l'ablation ne suffira pas. Il va falloir faire une chimiothérapie longue, puis une radiothérapie. Le choc est rude. Ma femme encaisse, droite dans ses bottes, remarquable de courage. Le cancérologue est plein de pédagogie. Il veut que tout soit clair. Il commence à décrire les choses en détail. L'anesthésie locale, qu'il faudra subir pour implanter le PAC sous la peau, les séances régulières, les effets secondaires, les vomissements, la perte des cheveux auxquels il faudra se préparer. Et plus il explique, plus ma tête tourne. Je perds le fil, je me retrouve chez le docteur de mon enfance. Ma mère n'est pas très loin. Et je m'évanouis. Ma femme fait face, et moi, je suis à l'horizontale, sur le carrelage. Quand je me réveille, le cancérologue est aux petits soins. Il propose même de m'hospitaliser. Mais pour la première fois, j'ai réellement honte. Comment ai-je pu me rater si piteusement? Laisser tomber ma femme dans une situation pareille, ce n'est plus possible. Une scène presque similaire a de nouveau lieu 3 ans après, lorsque Emmanuel fait une rechute. À 45 ans, il serait vraiment temps de devenir une grande personne. Je vous rassure, j'ai trouvé la solution. J'ai failli mourir récemment. J'ai fait un AVC. Enfin, presque. Un soir, j'étais au lit, en train de lire le journal, et je me rends compte que j'ai des fourmis dans les doigts de la main gauche. Ma femme reste d'un calme chirurgical. Elle me dit « ça ressemble à un AVC ». Appelle le 17. Autant dire la grande faucheuse. Au téléphone, le répartiteur me pose des questions basiques. Puis il me glace le sang. « Préparez-vous, on envoie une ambulance. Je suis donc bel et bien en train de faire un AVC. Je vais mourir. » Je m'habille en faisant très attention de garder le bras baissé pour éviter que le caillot de sang ne remonte trop vite, me boucher l'artère. Puis, je descends attendre l'ambulance. Je suis très calme. Je m'installe dans le camion du SAMU. Il y a des blouses, des brancards, des appareils qui bipent, une forte odeur de désinfectant. Mais pour la première fois de ma vie, toute cette quincaillerie ne me fait absolument rien. Pire, je me sens très bien. Je respire à fond. Quand j'arrive aux urgences, je blague même avec les externes qui me demandent si je sens les deux côtés de mon visage. Il apparaît peu à peu que tout ça n'est qu'une fausse alerte. J'envoie un SMS à Emmanuel pour qu'elle vienne me libérer. Je signe une autorisation de sortie. On part dans la nuit. Je tourne le dos à l'hôpital. Je crois que j'en ai fini.
Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
J'avais 19 ans et j'étais étudiante. C'était un soir où j'étais allée au cinéma. J'étais allée voir « À tombeau ouvert » de Scorsese. Je suis rentrée à vélo, j'habitais dans une résidence étudiante. Et pour ranger mon vélo, il fallait que je traverse un parking souterrain. J'ai rangé mon vélo et j'ai rejoint le petit sas qui permettait de monter dans les escaliers pour accéder aux étages. Et là, dans ce petit sas, quelqu'un s'est jeté sur moi, par derrière, m'a mis son bras autour du cou. J'ai crié. J'ai d'abord pensé que c'était une blague. Et puis il m'a dit de me taire. Il a brandi un cutter sous mon visage. Il m'a sorti du sas. Il était très nerveux. Et du coup, j'ai pas songé à fuir ou à crier. Il a défait l'écharpe que j'avais autour du cou. Et il me l'a mise sur les yeux. Et du coup, j'ai rien vu de ce qui s'est passé après. Et je me suis souvent dit que ça m'avait sauvé de pas avoir d'image. On est sorti du parking. Et là, il m'a mis dans le coffre de sa voiture. Je ne sais pas combien de temps a duré le trajet, mais j'ai eu le temps d'imaginer des situations horribles, de penser à mes parents. Et en même temps, j'ai le souvenir d'avoir été assez calme, comme si c'était quelqu'un d'autre qui le vivait, comme si je me regardais le vivre. On est arrivé quelque part, et là, il m'a sorti du coffre. Il était un peu moins agressif, mais toujours assez énervé. Il a commencé à me parler, à me dire qu'il était plombier à Rennes, qu'il avait eu des revers dans la vie, qu'il voulait pas me faire de mal. Je lui ai dit que j'avais rien à voir avec ses problèmes pour pas qu'il me confonde avec l'objet de sa colère. Je l'ai écouté, j'ai essayé de dialoguer, de me montrer conciliante pour l'apaiser, pour essayer d'avoir moins peur aussi. On est rentré quelque part, j'imagine un garage. J'ai dû m'asseoir, il m'a attaché les mains, il m'a demandé les clés de ma chambre, l'emplacement de ma carte bleue que j'avais pas sur moi, mon code, et il m'a dit qu'il me laissait sous la surveillance de quelqu'un. J'ai pas échangé de parole avec cette personne, et après coup, je me suis aussi demandé s'il y avait effectivement quelqu'un. Finalement, il est revenu, et là, on a repris la voiture. Cette fois, j'étais sur le siège passager, toujours avec l'écharpe sur les yeux. Et puis on a roulé un peu et on s'est à nouveau arrêté. Là, il m'a à nouveau dit qu'il voulait pas me faire de mal. Il m'a proposé une gorgée de bière. J'ai accepté. Il m'a demandé de l'embrasser. Je l'ai fait. Il m'a demandé de lui faire une fellation. Et je lui ai dit que si effectivement il voulait pas me faire de mal, il ne devait pas m'obliger à faire ça. Il a laissé tomber. Il m'a demandé de le masturber. Et je l'ai fait en me disant que c'était peut-être un moindre mal. Finalement, il m'a dit que si jamais j'allais à la police, il savait où j'habitais. Et puis, il m'a laissé descendre de la voiture. Il est parti. J'ai retiré l'écharpe. J'ai mis un petit temps avant de savoir où j'étais, de me repérer. J'étais assez loin de chez moi, je suis rentrée à pied, j'avais plus mes clés. Donc j'ai frappé chez mon voisin, qui avait été mon petit ami pendant quelques semaines. Donc on était assez proches. Je suis rentrée chez lui, j'ai pris une douche, j'ai appelé mes parents. Et je leur ai demandé de venir le lendemain pour m'ouvrir la chambre. En fait, ce qui me préoccupait à ce moment-là, bizarrement, c'était que le lendemain, j'avais un concert de musique amateur, et j'avais peur de pas récupérer mon instrument à temps. Finalement, le lendemain, mes parents sont venus, m'ont ouvert la chambre, j'ai récupéré ma flûte, je suis allée au concert, j'ai joué, et en sortant de scène, j'ai fondu en larmes. Mes parents m'ont convaincue d'aller à la police, ce que je ne voulais pas au départ parce que j'avais peur des représailles que m'avait promis mon agresseur. Ils m'ont accompagnée et là j'ai été assez vite entendue par 4 agents, dont une femme qui m'a dit que elle, personnellement, elle rentrait pas tard le soir seule. C'était assez dur de raconter. J'étais sous le choc J'avais aussi en tête les menaces que j'avais eues. J'ai essayé de leur expliquer ça, mais ils m'ont pas rassurée, ni conseillée. Et surtout, ce qu'ils comprenaient pas, c'est que j'ai pu partager une bière avec mon agresseur, que j'ai pu parler avec lui, que j'ai pu refuser ce qu'il exigeait de moi. Peu à peu, j'avais l'impression que ma déposition virait à l'interrogatoire. À un moment, ils ont pris ma mère à part et lui ont demandé si j'avais une vie sexuelle normale. J'avais l'impression que tout se retournait contre moi. Et puis le lendemain, il y a eu la reconstitution. Ils ont interrogé mon voisin, ils ont poursuivi leur enquête. Moi, je suis partie chez mes parents pour me reposer un peu. Et très vite, j'ai eu envie de revenir chez moi. Je voulais vite reprendre le cours d'une vie normale. J'ai déménagé, j'ai changé de coiffure aussi. Je me suis obligée très vite à marcher seule dans la rue le soir parce que je voulais absolument continuer à faire ce que j'avais toujours fait. Quelques semaines plus tard, j'ai été convoquée au commissariat à nouveau. Et là, le commissaire, bien installé dans son fauteuil, m'a dit qu'il ne croyait pas du tout à mon histoire. Que sans doute, qu'il croyait qu'il s'était passé quelque chose ce soir-là, mais pas ce que j'avais raconté. Et que maintenant, j'allais lui raconter ce qui s'était effectivement passé. Et qu'il n'en dirait rien à mes parents. Je lui dis que j'avais pas d'autre récit à lui donner. On l'a appelé, il m'a laissé seule. Et sur son bureau, j'ai vu une feuille avec deux hypothèses qui étaient censées expliquer mes motivations à avoir inventé cette histoire. La première, ça aurait été pour reconquérir mon voisin. La deuxième, pour toucher l'argent de l'assurance suite au retrait qui avait été effectué avec ma carte ce soir-là. Il est revenu. J'étais accablée. Enfin, c'était incroyable. C'était hallucinant. Lui avait l'air très agacé. Je suis sortie du commissariat. J'étais profondément sous le choc. Et j'ai plus une nouvelle. C'est seulement des mois plus tard que j'ai reçu une lettre comme quoi l'affaire était classée, faute d'éléments.
J'ai rencontré Dominique Cotteret en janvier 2015, il y a presque un an. À l'époque, il n'y avait pas encore eu son procès, dont vous avez sans doute entendu parler. Mais sa photo, son nom étaient partout, partout dans les médias. C'était la femme qui a tué ses 8 bébés en accouchant seule, en les étouffant à la naissance. Elle était présentée même comme un record, le plus important infanticide jamais commis en Europe. Parfois, les médias disaient le plus important au monde. J'avais en mémoire sa photo, une femme obèse, au corps immense, au visage rond et triste. Elle avait passé un an en prison et puis elle était ressortie dans l'attente de son procès. Son affaire avait été très largement suivie. Les télévisions de tous les pays avaient débarqué dans son petit village Villers-au-Tertre, près de Douai. Des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Coréens. Depuis l'affaire Courgeot, dite des bébés congelés, qui s'est passée en partie en Corée, les Coréens avaient tendance à penser que l'infanticide était un petit peu comme une sorte de spécificité française. Elle, en revanche, Dominique Cotteret n'avait jamais parlé à aucun média. Elle s'était terrée dans un petit village près de Lens depuis sa libération. Et moi, je demandais à son avocat de la rencontrer. Je voulais la rencontrer parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, au-delà des faits divers, de chercher à rencontrer les personnes, de chercher à comprendre ce qui les a amenés à commettre les actes terribles, ce qui les a amenés à basculer. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser. J'ai pris le train, j'ai pris la voiture. Elle m'a fait rentrer chez elle, c'était une toute petite pièce qui faisait tout. Chambre, salon, salle à manger, salle de bain. Elle s'est assise, je me suis assise, elle n'a rien dit. Alors là, ça fait 20 ans que je suis journaliste, mais je me suis dit, je vais repartir. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Face à cette femme qui est terrifiée, qui est muette, qui ne dit rien, je vais pas arriver à lui demander pourquoi elle a tué ses 8 bébés. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de lui faire parler de son enfance. Partir chronologiquement. Donc, je lui ai posé des questions sur son enfance, et elle répondait pas. Elle était assise derrière sa table ronde, elle avait l'air de plus en plus terrorisée. J'ai demandé, est-ce que votre enfance était heureuse ? Elle m'a dit, ah oui, c'était une enfance heureuse. J'ai dit, mais il n'y avait pas des moments difficiles ? Elle m'a dit, oui, il y avait des moments difficiles. Après, je lui ai dit, bon, mais est-ce que c'était un peu comme ça aussi ? Elle me dit, oui, c'était comme ça. Je dis, mais c'était pas un peu autrement aussi ? Ah oui, c'était un peu autrement aussi. Et puis, quand je posais une question ouverte, comment c'était ? Aucune réponse. J'entendais le tic-tac de l'horloge, le glou-glou de l'aquarium des poissons. Et le silence s'installait pendant des heures et des heures. Je me suis demandé si j'allais repartir, puisque ça servait à rien. Je faisais les questions et les réponses. Bon, je me suis dit, je vais essayer de la détendre un peu. Alors, c'est curieux d'essayer de détendre une femme qu'on est venue interroger sur le meurtre de ses 8 nouveau-nés. J'ai dit, Madame Cotteret, on va écouter le tic-tac de l'horloge, le glou-glou des poissons. J'ai même réussi à la faire rire un peu quand j'ai compté les minutes. J'ai dit juste, je ne parle plus parce que je voulais vous aider, mais là, je suis en train de vous suggérer vos réponses, ça n'a pas de sens. À la fin, ça a quand même duré 5 heures de silence. Elle m'a dit, ah, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Alors, on a décidé de se revoir. Je l'ai revue plusieurs fois, à chaque fois dans les mêmes conditions, dans sa minuscule pièce. Elle s'asseyait toujours à la même place, moi à la même place. À force, quand même, elle s'est mise un petit peu à parler de temps en temps. Je me souviens d'une après-midi qui m'a marquée, où elle m'a dit, il faut que je vous dise une chose. Une fois, j'ai essayé de me faire avorter. C'était une question très importante, parce que c'était pourquoi cette femme intelligente, cultivée, qui travaillait comme aide-soignante auprès de personnes âgées, qui était une mère, une grand-mère adorée par ses filles et ses petits-enfants, pourquoi elle avait pu avoir ces gestes criminels barbares alors qu'elle avait tout pour ne pas en arriver là, accès à la contraception, les connaissances médicales et puis l'avortement. Alors j'ai pris plein de notes, je me suis dit voilà enfin, quelque chose qu'elle me dit d'elle-même. Je ne lui ai pas suggéré, je ne parlais même pas de ça à ce moment-là, voilà quelque chose dont je suis certaine que c'est vrai. Est arrivé son procès, j'étais assise au premier rang. Elle me faisait des petits gestes. Parfois, elle venait me voir aux suspensions d'audience. Le deuxième jour d'audience, la présidente de la cour d'assises lui a demandé si elle n'avait jamais tenté de se faire avorter. Elle a précisé même, par exemple avec des aiguilles à tricoter. Dominique Cotteret s'est dressée sur sa chaise et a crié « Ah non, ça, j'aurais jamais fait une chose pareille !» Bon, moi, j'étais sur mon banc, le stylo en l'air. Jusque-là, j'écrivais. Là, je pouvais plus écrire. J'ai plus du tout écrit de la journée. J'étais un peu paralysée. Après, elle a fait, entre guillemets, pire. C'est ce que les médias ont appelé le rebondissement du procès. Elle a dit « L'inceste avec mon père, ça n'a jamais existé. » Cet inceste était censé être l'explication de ses actes, l'explication à laquelle tout le monde se raccrochait. Mais elle a dit non. Ce que j'ai raconté sur mon père, qui me violait quand j'étais petite, et puis plus tard, à l'âge adulte, nos relations sexuelles consenties. Non, c'était faux, j'ai tout inventé. Dominique Cotteret a été condamnée à 9 ans de prison. Après son procès, pendant mes vacances, j'ai relu les notes que j'avais prises lors de nos rencontres. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses qu'elle m'avait dites spontanément, comme les aiguilles à tricoter, comme l'inceste, dont elle m'avait beaucoup parlé, étaient fausses. Ou alors... peut-être qu'elles n'étaient pas fausses, mais elle avait dit exactement le contraire après à son procès. Alors j'ai relu encore mes notes et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais de Dominique Cotteret ? Alors j'ai fait une liste de ce que je sais de Dominique Cotteret, qui est très peu par rapport à ce que je ne sais pas. Je sais que je suis toujours contente quand je vais voir Dominique Cotteret. Ce n'est jamais un pince-somme. Maintenant qu'elle est en prison, je suis contente quand je lui écris, je suis contente quand je reçois ses lettres. C'est une femme à l'écoute, attentive, hyper prévenante, hyper sensible. Je sais que c'est une excellente mère. Ses filles Emeline et Virginie me l'ont assez montré et les femmes extraordinaires qu'elles sont devenues le montrent. C'est une excellente grand-mère. Elle a 3 petits-enfants qui l'adorent. Elle les garde tous les mercredis et pendant les vacances. Et maintenant qu'elle est en prison, elle leur manque terriblement. Je sais qu'elle a commis les actes les plus... horrible qu'il soit, aux yeux de beaucoup, mais aussi aux miens. Je sais que si je vous raconte l'histoire de Dominique Cotteret, C'est parce que j'ai l'espoir que ça puisse servir à quelque chose. Servir à d'autres femmes qui se retrouvent dans la même détresse à ne pas passer à l'acte, à trouver le courage d'appeler à l'aide. Servir à leur entourage, à détecter les signaux de détresse, à ne pas détourner le regard, à trouver le courage de les aider. Je sais que j'ai pour Dominique Cotteret, malgré les meurtres de ses enfants auxquels je pense très souvent et qui me rendent immensément triste, je sais que j'ai pour elle une vraie amitié. Cette amitié est un mystère. Dominique Cotteret est un mystère. Je me suis résolue au fait que je ne la comprendrai jamais tout à fait.
Finest ever made, crafted with pride by masters of the trade.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un best-of de Nos Pieds sur Scène, en l'occurrence à Lille, une émission réalisée par Annabelle Brouard avec un coup de main de Philippe Baudouin et proposée par Delphine Saltel. Merci à Ondine Milo, à Pierre Mathieu et à Anne-Sophie Le Picard. Merci au Théâtre du Nord, à Anne-Marie Peignet, à Marie Desplechin, à Eric Dussard et à Pauline Mocor. Vous pouvez retrouver ces histoires en vidéo sur le site des Pieds sur Terre. Et si vous voulez voir Les Pieds sur Scène en vrai, avec certains des intervenants que vous avez entendus aujourd'hui et cette semaine, notamment Anne-Sophie Le Picard, rendez-vous au Théâtre d'Autun le dimanche 15 juillet. Ce dimanche, il y a deux représentations, une à 11h et une à 14h. C'est dans le cadre des rencontres de juillet, le Festival des Histoires Vraies. On y sera et on vous y attend. Bars without the safety net. We have a story, all the impossible. A tale past all suffering. One and make believe. Maybe impossible to achieve. I'm really. Awesome.